Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Florin.
Et avec toute l'équipe, bonjour.
Bonjour.
Et deux actrices nous ont quittés à quelques heures d'intervalle, très identifiées dans des rôles absolument différents. Claude Jansac, Madame de Funès au cinéma, et Carrie Fisher, la princesse de Star Wars. On y revient évidemment avec Thierry Chaise, qui a deux coups de cœur hein, dans les sorties ciné de ce mercredi, Père-Fils Thérapie et American Pastoral. Côté musique, Benjamin Biolay, qui avec Palermo Hollywood a signé un des meilleurs albums de chansons françaises de l'année. Il vient de démarrer une tournée partout en France. Steven Bellery l'a rencontré et il a même assisté à un de ses concerts, le Vénard. Et puis à la télé ce soir sur France 3, une soirée avec des animaux puis des archives tirées de l'âge d'or, des shows, des carpentiers. Il n'en fallait pas moins pour régaler Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avant de passer en revue les nouveautés de ce 28 décembre avec vous Thierry Chaise, bonjour.
Bonjour.
On va évidemment revenir sur la disparition hier soir de Claude Jansac qui restera Madame de Funès à l'écran hein, dans le cœur du public. Pourquoi ce couple a-t-il aussi bien fonctionné pendant 10 films ?
Parce qu'elle a été parfaitement choisie par la vraie Madame de Funès qui recherchait pour que son mari change d'image à l'écran à la fin des années 60, une épouse ayant de la distinction. Elle s'est souvenue de Claude Jansac qui avait joué avec de Funès au théâtre en 52 dans une pièce de Pierre Mondy en tombant sur un épisode des 5 dernières minutes à la télé. Et c'est ainsi qu'elle a propulsé sur le devant de la scène ce personnage de femme autoritaire, presque maman de son mari, qu'elle n'hésite pas à recadrer et qui file doux, comme dans cet extrait de la saga des gendarmes.
Ça continue la fièvre du samedi soir. On s'offre des escapades nocturnes dans les couloirs de cette demoiselle.
Ma biche, je peux tout vous expliquer.
Inutile, je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille.
C'est une malade.
Vous foutez de moi ?
Oui. Passons maintenant aux sorties du jour. On s'en lasse pas. Ah, non, c'est extraordinaire. Pardon ?
Scène de ménage sur M6.
Exactement.
De Claude Jansac ?
De Claude Jansac.
Ah, je ne savais pas. Merci Isabelle. Passons maintenant aux sorties du jour, Thierry. Et commençons par le film français le plus attendu, Père-Fils Thérapie d'Émilie Gaudreau, qui réunit notamment à l'écran Richard Berry et Jacques Gamblin.
Exactement. C'est le remake d'un film québécois dont le scénario est co-signé par Philippe de Chauvron, réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? L'histoire d'un père et de son fils, tous deux flics, qui ne se supportent pas, mais se retrouvent contraints de participer à un stage de réconciliation pour y démasquer un avocat de truand, lui aussi en stage avec son fils, avec le lot de quiproquos que vous pouvez imaginer. Dans le rôle du papa flic ronchon et pas paternel pour dessous, on retrouve Richard Berry, toujours aussi excellent. Un personnage qui lui a naturellement parlé car dans la vraie vie, le comédien exerce lui aussi le même métier que son enfant. En l'occurrence sa fille, Joséphine Berry, qu'il a dirigée dans 5 de ses films, avec des rapports heureusement un peu plus apaisés que dans Père-Fils Thérapie.
Avec Joséphine, j'ai pas des conflits comme ça. Mais il y a parfois des fulgurances caractérielles qui n'ont rien à voir avec le métier, bien sûr, qui ont à voir avec le fait qu'elle revendique très souvent son autonomie, sa liberté de penser. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça qu'elle est allée s'installer loin, loin de moi à Londres, qu'elle a commencé sa carrière depuis maintenant 3-4 ans sans moi. Elle fait son parcours toute seule, ce qui fait que quand tout d'un coup, je peux exprimer ou lui évoquer l'idée d'une certaine ingérence, elle va réagir effectivement comme dans le film, avec une certaine violence, disons, contre moi. Mais tout ça est quand même maintenant assez pondéré par la distance, peut-être. Peut-être que si elle était restée à Paris, on se serait approché de Père-Fils Thérapie, on aurait appelé ça Père-Fils Thérapie.
Ils vont se régaler dans Père-Fils Thérapie de chaque face-à-face entre Richard Berry et Jacques Gamblin, qui joue cet avocat lui aussi incapable de communiquer avec son rejeton. Deux formidables comédiens de comédie qui, voilà 20 ans, avaient triomphé comme partenaires dans Pédale douce. Souhaitons à Père-Fils Thérapie un destin du même acabit.
Un film signé Émile Gaudreau. Mmh. Les rapports familiaux compliqués sont aussi au cœur d'une autre sortie aujourd'hui, American Pastoral. C'est la toute première réalisation d'Ewan McGregor qui en tient aussi d'ailleurs le rôle masculin principal.
Exactement, l'adaptation d'un classique de la littérature américaine de Philip Roth, l'histoire d'un couple qui mène une vie paisible dans l'Amérique des 60s jusqu'à ce que leur fille, ado en rébellion contre eux et le monde entier, se mue en terroriste. Une intrigue déchirante qui a incité le héros de Trainspotting à sauter donc le pas de la mise en scène.
Ce scénario m'a totalement captivé. J'ai été embarqué dans la dynamique familiale
Et dans cette étude des relations père-fille, je suis le papa de 4 filles, donc ça ne pouvait que me toucher profondément, établir une connexion. Et puis immédiatement, ça devient votre responsabilité. Avoir la possibilité de mettre en scène, c'est comme faire un bébé. Je ne voulais pas seulement être le réalisateur qu'on engage pour que techniquement tout se passe bien. Il fallait que j'imprime ma marque. C'est mon premier film. Mon nom y sera associé. Je voulais qu'il reflète qui je suis en tant qu'acteur, mais aussi en tant que cinéaste.
Et Yoav Dan-Gregor réussit des débuts de réalisateur convaincant. Certes, son film ne possède pas l'ampleur du livre de Ross, qui racontait l'histoire des États-Unis avec un H majuscule. Mais faire tenir 500 pages en 2 heures était une gageure impossible. McGregor a eu le mérite de choisir un axe et de s'y tenir, à savoir la relation brisée entre ce père aimé de tous et cette fille qui, dès l'enfance, aurait voulu qu'il n'ait Dieu que pour elle. Dans ce rôle, Dakota Fanning, enfant star vue notamment dans La Guerre des Mondes, trouve son premier grand rôle de jeune femme et son interprétation remarquable lui ouvre de belles perspectives pour l'avenir.
Il y a une autre jeune comédienne américaine, Jennifer Lawrence, hein, qui elle règne sur Hollywood depuis quelques années déjà, et on la retrouve cette semaine en tête d'affiche de Passengers, qui alors là vous a nettement moins emballé.
Et oui, pourtant sur le papier ça donnait vraiment envie. Alors qu'est-ce qu'on suit ? Un vaisseau spatial en route vers une planète colonisée avec à son bord ses futurs habitants. Des terriens comme vous et moi, plongés dans un coma artificiel et enfermés dans des capsules d'hibernation pour arriver frais et dispo au terme de ce voyage de 120 ans. Mais voilà que deux de ces capsules connaissent un souci technique et réveillent leurs occupants 90 ans trop tôt.
C'est ballot.
Bienvenue à l'observatoire. Que puis-je vous montrer ?
On est censé arriver bientôt. Y'a que moi qui suis réveillé.
Je ne comprends pas. Que puis-je vous montrer ?
Montre-moi Homestead 2.
Homestead 2 est la quatrième planète du système de Bakhti.
D'accord. Et où on est ?
Nous sommes en transit entre la Terre et Homestead 2. Nous arriverons dans environ 90 ans.
Toute la première partie de Passenger tient la promesse de ce pitch, un film de science-fiction en huis clos, sans effets spéciaux tonitruants, centré sur le désarroi d'un jeune homme qu'on a entendu et d'une jeune femme, Jennifer Lawrence, donc, face à cette quasi-certitude de passer leur existence dans ce vaisseau et d'y mourir avant qu'elle ne se pose sur cette fameuse planète. Mais très vite, les effets spéciaux reprennent le pouvoir et Passengers bascule dans un festival pyrotechnique déjà vu 100 fois et en mieux.
Deux autres films de science-fiction.
Une déception d'abord, Le cœur en braille de Michel Boujna, histoire d'amitié entre un gamin de 12 ans et une passionnée de violoncelle du même âge, tentant de cacher sa cécité naissance pour être admise dans une école prestigieuse. Plus larmoyant qu'émouvant, ce film aux intentions louables se noie hélas dans une dose étouffante de bons sentiments.
Alors finissons sur une note plus enthousiaste.
Oui, esprit de Noël, toujours vivace oblige. Hein. Je vous recommande Diamond Island de David Chou, portrait d'une beauté renversante de la jeunesse cambodgienne. Cette histoire de deux frères tentant de resserrer des liens distendus rappelle le climat envoûtant du Origin Suicide de Sofia Coppola.
Merci Thierry Chaise. On a les audiences, Isabelle Moïdi-Bosque.
On a les audiences et bien surprise, c'est assez rare pour être signalé. La chaîne qui est en tête, c'est la 3 avec Astérix et Obélix au service de sa majesté. 4 300 000 téléspectateurs et 18% du public, c'est un très joli score. Devant Les Vacances de Ducobus sur TF1, 3 800 000 fanas et 16% du public sur la Une. Et en troisième position, Les Adorateurs de Stéphane Plaza sont 2 600 000 sur M6, 11% du public. La déception, vous l'avez compris, c'est à vos pinceaux sur la 2, je vous avais prévenu.
Oui,
hein. C'est pas la peinture, c'est pas la pâtisserie.
Vous l'aviez bien vendu pourtant.
Mais oui, mais moi j'adore. Il n'y a rien à reprocher à la 2, mais moins d'un 1 600 000 téléspectateurs et 7% du public, la peinture, ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, et côté TNT, 1 100 000 personnes ont vu le jour de gloire sur NT.
Merci Isabelle. On parle de Benjamin Biolay juste après ça.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Jérôme Florin, jusqu'à 9h30.
Et on parle musique à présent avec Palermo Hollywood. Il a signé l'un des meilleurs albums de l'année. Benjamin Biolay est en tournée depuis quelques semaines. Il chantait la semaine dernière à l'Élysée Montmartre à Paris. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez dans la salle pour RTL alors ?
Oui, là même où il avait donné son tout premier concert parisien. 15 ans plus tard, Biolay est une valeur sûre de la chanson française. Il apparaît les cheveux courts, amincis, tout de noir vêtu.
Le jour se lève enfin sur Palermo Hollywood. Un tronc se marche dans la rue, me lâche un coup de coude. Alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer merci. Libertador, même l'hiver j'adore.
Microfil à la main, entouré de 5 musiciens, Biolay semble plus libéré que jamais. On lui reprochait de chuchoter, sa voix est très en avant.
J'attendais en vain que le monde entier m'acclame. Qu'il me déclare sa flamme dans une orgie haute gamme. Palam, 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 palam.
Un rideau blond, blanc, un fond de scène, quelques projections d'images, la mise en scène est très épurée. Pendant plus de 2h30, le chanteur égrène les chansons de son dernier disque, hommage à l'Argentine. La couleur est électrique, parfois rock, un choix surprenant.
L'Argentine, c'est quand même un pays de rock plutôt, quoi. Et il y a beaucoup de groupes de tango, un peu rock, un peu dark, de trucs comme ça. Et c'est, oui, c'est de faire un peu ce qu'on entend en club. Il y a quand même le bandoneon qui est vachement important, et puis des guitares baryton, des choses qui sont très typiques de la musique quand même latino-américaine. Et on essaie, ouais, d'avoir un peu ce style-là, mais ça reste ma musique. Bien sûr, ouais, j'aimerais bien qu'on me voit tel que je suis comme musicien, quoi. J'essaie parfois d'être le plus nu possible dans mon attitude et de jouer les chansons comme si je les jouais chez moi. Vraiment, la musique, c'est un vaste, c'est le plus grand terrain de jeu du monde pour moi, donc et en travaillant beaucoup, bah, fatalement, même si on n'est pas hyper doué, on progresse, hein, c'est la vie, et plus on progresse, plus on est capable d'aborder des genres musicaux différents, et c'est une forme de liberté, de jouissance qui est extrêmement rare.
Si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent, si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
Ton héritage, extrait du double album La Superbe.
Qu'on aime ou qu'on déteste, en tout cas, Benjamin Biolay s'est imposé comme un grand, hein, Steven.
Oui, apaisé, mais habité, généreux, hypersensible, Biolay laisse ses mélodies respirer, ses chansons s'étirer. Il prend sa trompette, puis sa guitare pour un duo avec Jeanne Chéral. Il convie Sandrine Kiberlin et Chiara Mastroianni, se met au piano pour une reprise de Verlaine de Trenet. Lumière tamisée, un verre de rouge à portée de main. Biolay offre même une chanson inédite à paraître sur son prochain disque, Prolongement de Palermo Hollywood. Il en dit plus ce matin sur RTL.
Le volume 2, plus ou moins, qui est la suite, qui est le retour en France, mais qui est fait avec les mêmes musiciens au même endroit, va sortir le 19 mai, oui. Il s'appellera Volver, je crois, qui veut dire revenir, justement. Et qui est le titre d'une des chansons du prochain album. Il aura quand même cette petite étiquette, quelque part, de Palermo Hollywood, volume 2, mais c'est une autre histoire, c'est une version plus urbaine de la musique latino-américaine, par exemple.
J'ai connu le grand amour, quelquefois. Si souvent le petit jour s'allonger sur les toits de Paris, fait des affaires, vu mon chemin de croix. J'ai dit jamais, j'ai dit toujours, j'ai dit va-t'en, reviens un jour. La chamade, Romorazade, tu es en cascade, la débandade.
La débandade, l'un des temps forts de son dernier album, Benjamin Biolay, est en tournée partout en France jusqu'à la fin du mois de février, le 14 janvier à Brest, le 24 à Mulhouse, le 2 février à Marseille ou encore le 8 février à Roubaix. Son album Palermo Hollywood vient d'être réédité. On en reparlera, je pense, aux Victoires de la musique de Benjamin Biolay, vous verrez. Et dans cette réédition, il y a un très joli duo avec Camélia Jordana sur le titre J'attendrai, reprise, on s'en rappelle évidemment, de la chanson de Tino Rossi ou même chantée par Dalida. J'ai suggéré à Benjamin Biolay de faire tout un disque pour Camélia Jordana. Il m'a dit mais quand elle veut. L'appel est lancé.
C'est pour. On peut écouter encore un petit peu. Cette version très personnelle de J'attendrai avec Camélia Jordana.
Et pourtant, j'attendrai.
Merci beaucoup Steven Bellery. Donc Benjamin Biolay en tournée partout en France jusqu'à la fin du mois de février. Les coups de cœur télé, Isabelle Morin Dibiosque dans un instant, qui aime beaucoup les rediffs d'ailleurs.
Certaines.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Jérôme Florin.
Isabelle Morini-Bosque, il y a une spéciale pâtisserie de fête hein, sur M6, mais vous, ce matin, vous dites surtout « Vive les rediffusions ».
Oui, alors on est d'accord, les rediffs, il ne faut pas en abuser, mais certaines sont plébiscitées par le public, alors pourquoi s'en priver ? C'est le cas de la spéciale que le Monde de Jamie avait cet automne consacrée aux animaux sur France 3, une émission utile pour mieux comprendre leurs réactions, du chien qui côté flair s'impose, par exemple le Saint-Hubert, pas le fromage, hein, mais le chien de chasse, à 300 millions de capteurs contre 10 pour nous, au cheval qui a une vue sur 340 degrés, et avec tout ça, il ne voit pas bien, en passant par le chat, qui est hélas le premier prédateur d'Europe. Bah tiens, si on évoquait son ronronnement, écoutons le spécialiste assis dans un bar à chats, c'est-à-dire un bar où on consomme entouré de chats, avec les journalistes Myriam et Jamy.
Il ronronne. Oh là là.
Qu'est-ce qui provoque le ronronnement chez un chat ?
Une émotion forte. Soit il se sent très bien, comme ici. Ou alors au contraire, il se sent très mal et il ronronne pour retrouver cette harmonie. Oh là, oh, je suis bien là. Ce ronronnement, ce sont des basses fréquences, un son très grave. Sur notre peau, on a des capteurs qui sont sensibles à la pression et qui vont être sensibles à ces basses fréquences.
Voilà. Et du coup, ça nous fait du bien. Chapristi.
On dirait un chat à moteur. C'est suivi alors d'une autre rediffusion consacrée au show de Maritier Gilbert Carpentier sur la 3.
Toujours sur la 3, oui. Et quand on voit la qualité de cette spéciale en deux parties, elle aussi plébiscitée par le public la semaine dernière, on se demande pourquoi la 3 quasiment attendu 2 ans avant de la diffuser. Moi, ce que j'en dis, c'est intelligent, c'est bien produit, c'est précis, commande seulement ceux qui ont vécu ces années 80-90 où un couple, or donc Maritier Gilbert Carpentier, produisait de splendides shows coûteux où les plus grandes vedettes venaient hors promotion et faisaient tout ce qu'on leur demandait, avec d'incroyables décors comme construire une piscine près de 10 minutes avant la diffusion, sans oublier ce jour où, sans le dire à personne sauf à Michel Sardou, la réalisatrice Marion Sarraud et le décorateur font s'effondrer totalement le décor élaboré de la Java de Broadway.
Il y a des gens qui m'ont dit, ils ont cru que c'était en réel. Hein.
On ne pensait pas qu'il y aurait autant de poussière, autant de dégâts. Ça avait affolé quand même les pompiers qu'on avait vaguement prévenus. Ah, les gens y ont cru, quelques riverains se sont précipités en pensant qu'il y avait eu une catastrophe.
Ben oui, d'autant qu'il y avait sur l'écran, excusez-nous pour cette interruption momentanée de l'image. Tous s'amusaient, comme avec ce sketch écrit par Guy Bedos et Sophie Daumier, où Joe Dassin et Marie Laforêt conseillent des couples.
Si votre mari vous dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Simone, ne vous jetez pas sur l'occasion pour répondre.
Je sais pas si on divorce.
Rappelons-nous par ailleurs que l'amour n'est pas un jeu de hasard, il est mal élevé de faire ceci.
Attention les yeux, pile, je reste, face, je m'en vais. Hop, pile, on recommence. Hop, face, manque de bol, salut Ginette et sans rancune.
Non, ça n'est pas bien. De même, si vous partez, très bien, partez en douceur, sans commentaire.
C'est vrai, abstenez-vous des critiques. En plus, ne dites pas...
Quoi ? T'as la vie devant toi, t'as 56 ans, t'es pas marrante, mais t'es gentille, je te donnerai 400 francs par mois et tu pleurniches. Elle manque d'humour.
Voilà, l'émission Abbé du Flair, c'est dans un show des Carpentiers qu'on entendra pour la première fois Fabienne Thibault et ceci.
On danse les uns avec les autres.
Juste derrière moi, avec une masse de cheveux que depuis il a perdu, on reconnaît Laurent Baffy.
On se déteste, on se déchire.
La vedette débarquait, elle chantait, et nous, on connaissait pas les paroles. Hein. Et là, on se rend compte qu'on a de la chance d'être là. On découvre des gens nouveaux, ben, la voix, waouh.
On arrive en ville, tout le monde change de trottoir.
Et petite question, qui a fait le plus de shows Carpentier ? Bon, réponse de Marion Sarraud.
Bonsoir. Vous le savez, un grand...
Mireille Mathieu, c'est la recordman absolue des shows des Carpentiers, parce que je crois qu'elle a fait 12 émissions avec eux.
C'est si bon de se dire les mots doux, des petits rien du tout.
Il n'y a plus de spectacle comme ça aujourd'hui à la télé. Ça fait un peu vieux con de dire ça. Mais c'est vrai,
aussi dans une... Non, bah non, puis d'autant que ça coûte infiniment trop cher. Ouais. Maintenant, c'est impossible.
Merci Isabelle.
Julien Courbet, pour la promotion.
Julien Courbet nous attend juste après ça. 9h30 sur RTL, vous retrouvez Julien Courbet.